Il est midi en temps universel, 14h ici à Paris. Merci d'écouter RFI.
RFI midi, Anne Contner.
C'est l'heure du journal de Charlotte Hydrac. Bonjour Charlotte.
Bonjour. Se maintenir ou se retirer, les candidats qualifiés pour le second tour des législatives en France ont jusqu'à ce soir 18h pour se prononcer. Ultime tractation et vague de désistement pour faire face à l'extrême droite qui est en position de force. Jordan Bardella du RN dénonce des alliances du déshonneur. L'hyperactif Premier ministre Gabriel Attal, lui, vous l'entendrez, est reparti en campagne. C'est une victoire pour Donald Trump. La Cour suprême est l'immunité pénale du président. Alors concrètement, un éventuel procès pour son rôle dans l'invasion du Capitole en 2021 est encore retardé. Et le candidat républicain veut aller plus loin. Il veut en profiter pour reporter également le verdict dans l'affaire Stormy Daniels. À suivre aussi, Viktor Orban à Kiev. Le premier ministre hongrois proche de Moscou réclame un cessez-le-feu en Ukraine. Le président Zelensky, lui, demande à l'Europe de maintenir son aide militaire. Le feu vert de l'armée en Israël pour entamer la phase 3 de la guerre à Gaza, censée amorcer un retrait progressif des troupes. Nous serons en direct de Jérusalem. Et puis le phénomène britannique King Hannah, le studio vient de sortir un deuxième album, ça s'appelle Big Swimmer. José Mourinho a été emballé, vous l'entendrez.
RFI Midi.
Dernière tractation et tergiversation en France, donc les candidats en lice pour le second tour doivent déposer leur dossier d'ici 18h ce soir.
Et donc on devrait avoir une photo claire, hein, des affiches pour le scrutin de dimanche. D'après le décompte du journal Le Monde, à la mi-journée, près de 200 candidats arrivés troisième au premier tour se sont déjà désistés pour faire barrage au front au Rassemblement National. Stratégie d'un front républicain contre l'extrême droite. Jordan Bardella du RN dénonce des alliances contre nature. Je cite, dans le camp présidentiel en difficulté, le chef du gouvernement, Gabriel Attal, continue de s'activer. Il est reparti sur le terrain en campagne ce matin à Paris, dans le 17e arrondissement, pour soutenir le candidat de la majorité, Stanislas Guérini. Pas de temps mort hein, pour le Premier ministre Charlotte Turien-Tomaca.
Oui, il fait campagne tambour battant, staccanoviste pour cet entre-deux-tours. Pas moins de 3 circonscriptions en une seule journée. D'abord le 15e arrondissement de Paris ce matin, puis le 17e et cet après-midi, Chartres. Le Premier ministre qui ne cesse de marteler, cette phrase, je cite, « On compte sur vous dimanche prochain auprès de tous les Parisiens qu'il croisait ce matin. Opération sauvetage donc, et au moins 80% des personnes croisées lui posent la même question. Quelles sont les consignes de vote ? C'est flou, on n'a pas compris, lui ont dit au moins 3 habitants du 17e. Et surtout, on ne comprend pas ce qu'a dit Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, qui refuse d'appeler à voter pour un candidat LFI, y compris pour faire barrage au RN. Ça va à l'encontre des consignes dictées par Gabriel Attal lui-même, qui a d'ailleurs répondu à son ministre de l'économie. Je cite, le chef de la majorité, c'est moi. La campagne, c'est moi qui l'amène. Et les consignes, c'est moi qui les donne. Seul objectif donc pour le Premier ministre, continuer à tout faire pour que le RN n'ait pas la majorité absolue dimanche prochain.
Charlotte Turien-Tomaca, et dans ce contexte inédit, les responsables politiques parlent beaucoup de valeurs, hein, d'un choix clair entre des programmes très très différents sur les retraites, sur l'Europe ou encore sur l'immigration. C'est un thème majeur pour l'extrême droite. S'il arrive au pouvoir, le Rassemblement National propose plusieurs mesures pour durcir les droits des étrangers et appliquer une priorité nationale pour l'accès aux emplois par exemple ou aux prestations sociales. Alors pour le moment, c'est anticonstitutionnel, mais ça inquiète certains travailleurs et professionnels dans des secteurs qui sont déjà en tension, comme celui des services à la personne. Reportage Nicolas Pagès.
Un jour, je vous trouverai dehors dans la rue. Et
tu m'y as trouvé. Je cherchais les champignons.
Renée, 95 ans, est très dépendante. Si elle peut encore vivre chez elle dans son appartement du nord-est parisien, c'est parce que des dizaines de personnes, soignants et aides à domicile, comme Olga, se relaient à son chevet.
Oh, j'ai beaucoup de personnes, oui, qui m'aident. Le matin pour me lever, après pour me laver, l'après-midi pour me changer, le soir pour me coucher. C'est surtout des... Tu te rappelles, Olga ? Presque toutes. Elles sont du Cameroun.
Des femmes, en majorité, pour la plupart immigrées.
On en a peut-être sur 30 études françaises ou deux.
Olga, 35 ans, est moldave. Elle est arrivée en France en 2016.
Depuis quand je suis venue ici, je travaille tous les jours.
Olga tente de se rassurer, mais le climat politique l'inquiète.
Si j'ai bien compris, les personnes qui sont en règle, qui respectent la loi, qui paient les impôts, ne vont pas être touchées. J'espère que ça va être comme ça, comme elles disent. qu'on va pouvoir rester ici, parce que quand même on était venu ici pour nos enfants, pour leur donner une plus belle vie.
Et René, d'ajouter...
Parce que s'ils enlevaient tout, il n'y a plus personne pour soigner.
D'après l'INSEE, en Île-de-France, 6 aides à domicile sur 10 sont immigrées.
Et je vous le rappelle, la date limite donc pour le dépôt des candidatures à la préfecture en vue du second tour des législatives, ce sera tout à l'heure 18h.
Pour l'heure, il est 14h05 ici à Paris. La suite de votre journal, Charlotte, nous emmène aux États-Unis. Le président Joe Biden dénonce un précédent dangereux après la décision de la Cour suprême d'étendre l'immunité présidentielle.
Oui, au contraire, et sans surprise, Donald Trump, lui, salue une décision historique. La décision, lui, est très favorable puisque concrètement, cela retarde encore un éventuel procès pour ces tentatives d'inverser le résultat de l'élection de 2020. Le terrain judiciaire est donc dégagé pour lui en vue de la présidentielle de novembre et Donald Trump ne veut pas s'arrêter là. L'ancien président a immédiatement engagé un bras de fer judiciaire, Vincent Souriau, pour reporter le verdict qui pèse sur lui dans l'affaire Stormy Daniels.
Effectivement, les avocats de Donald Trump ont dégainé une lettre quelques heures après cet arrêt de la Cour suprême, car dans cette affaire Stormy Daniels, la justice new-yorkaise doit en principe rendre son verdict le 11 juillet. Reconnu coupable, Donald Trump l'est déjà depuis le 30 mai. 34 infractions retenues contre lui, dont la falsification de ses registres financiers, manière de camoufler comment il a acheté le silence d'une ancienne actrice pornographique après des relations sexuelles. Ce que l'on attend dans moins de 10 jours, c'est la peine retenue contre l'ancien président américain. Prison ferme, sursis, assignation à résidence. Ce choix, il est entre les mains du juge Merchan qui chapeaute cette procédure et c'est à lui que l'équipe Trump vient d'écrire afin qu'il ajourne sa décision et qu'il la passe au tamis de la nouvelle immunité conférée par la Cour suprême. Le dossier Stormy Daniels repose avant tout sur des agissements commis par Donald Trump avant qu'il ne prenne la Maison Blanche, mais il va tout faire pour montrer que l'accusation est aussi allée pêcher parmi ses actes officiels qui sont désormais, Charlotte, inviolables et inutilisables dans un cadre judiciaire.
Et on y reviendra dans quelques minutes avec notre invité pour essayer de comprendre quelles peuvent être les conséquences sur la campagne de cette décision et sur l'avenir judiciaire de Donald Trump. L'échange est scruté de très près. Viktor Orban est en déplacement à Kiev aujourd'hui et c'est sa première visite depuis l'invasion russe de l'Ukraine.
Viktor Orban qui vient de prendre la présidence du Conseil de l'Union européenne et qui affiche sa proximité avec Moscou. Le Premier ministre hongrois se démarque très nettement de ses pairs européens sur le dossier ukrainien. Il bloque régulièrement l'aide militaire à Kiev et il s'est opposé à une adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Alors Stéphane Sion, on vous retrouve, vous êtes en direct de Kiev. Les deux dirigeants se sont vus, ils ont déjà affiché leur position.
Oui, Viktor Orban et Volodymyr Zelensky viennent de tenir une conférence de presse il y a quelques minutes et sans surprise, le dirigeant hongrois a exhorté son homologue ukrainien à accepter un cessez-le-feu afin de parvenir à la paix. J'ai demandé au président Zelensky de considérer la possibilité d'un cessez-le-feu rapidement, a ainsi déclaré Viktor Orban, un cessez-le-feu qui serait limité dans le temps et qui permettrait d'accélérer les négociations de paix avec la Russie. De son côté, Volodymyr Zelensky a plaidé pour un maintien du soutien et de l'aide militaire européenne, alors que dans le passé, le gouvernement de Viktor Orban a bloqué à plusieurs reprises les versements de tranches d'aide de Bruxelles. Donc on le voit, il n'est pas certain que la première visite de Viktor Orban à Kiev depuis 12 ans ait permis de rapprocher les deux pays, car depuis le début de l'invasion russe, Viktor Orban se fait régulièrement le porte-voix des propositions du Kremlin, et cela semble être encore le cas aujourd'hui avec cette idée de cesser le feu, une option régulièrement mise en avant par le Kremlin qui pourrait être tenté de geler les lignes de front en Ukraine en attendant patiemment les élections américaines de novembre avec la perspective d'un retour au pouvoir de Donald Trump. À Kiev, beaucoup de dirigeants craignent que l'avènement d'un axe nationaliste dans plusieurs pays d'Europe, à Budapest mais aussi à Paris, soit instrumentalisé afin de forcer l'Ukraine à des compromis territoriaux.
Stéphane Sion en direct de Kiev. C'est un nouveau chapitre de l'histoire politique des Pays-Bas. Dick Schroef a été investi Premier ministre ce matin. Il succède à Mark Rutte au pouvoir depuis 14 ans. Le nouveau chef du gouvernement a notamment été chef du renseignement. Il prend la tête d'une équipe de 16 ministres, dont 5 du PVV, le parti d'extrême droite de Geert Wilders, après sa percée aux dernières législatives.
En Israël, le gouvernement donne son feu vert à l'armée pour entamer la phase 3 de la guerre à Gaza.
Après la phase 1 et 2, les bombardements intenses, puis l'offensive terrestre, cette phase 3 est censée amorcer le retrait progressif des troupes israéliennes de la bande de Gaza, mais tout en maintenant l'occupation militaire du territoire palestinien. Samy Bourlefa, on vous retrouve maintenant en direct de Jérusalem. Alors, qu'en est-il des objectifs de guerre israéliens ?
Alors cette phase 3 sonne comme un aveu d'échec. 9 mois de guerre, 9 mois d'enlisement. Les Israéliens n'ont pas atteint leurs objectifs. Objectif numéro 1, éradiquer le Hamas. Le Hamas est certes affaibli, mais toujours en place à Gaza. Objectif numéro 2, le retour des otages. Quelques 120 Israéliens sont toujours captifs. Exercice compliqué. Les dirigeants israéliens va-t-en-guerre doivent désormais convaincre leur opinion publique de la cohérence de cette phase 3 qui ne répond pas aux promesses de Benjamin Netanyahou, c'est-à-dire la victoire totale à Gaza. Dans le détail, cette phase 3 prévoit le retrait des troupes israéliennes de la bande de Gaza. Une présence militaire sera néanmoins maintenue à deux endroits, l'axe de Netzarim, situé dans le centre de la bande de Gaza. Cette route s'étend d'est en ouest et coupe en deux le territoire palestinien. Deuxième position militaire maintenue tout au sud, le corridor de Philadelphie, c'est la frontière entre la bande de Gaza et l'Égypte. Israël prévoit ainsi de pérenniser l'occupation militaire de l'enclave palestinienne. Son armée continuera d'y intervenir lors d'opérations ciblées, comme c'est actuellement le cas dans les territoires palestiniens de Cisjordanie occupée.
Samy Bourlefa, en attendant, c'est le sauve-qui-peut à Khan Younes, dans le sud de la bande de Gaza, après l'évacuation ordonnée par l'armée israélienne. 250 000 personnes sont concernées selon l'ONU. De nouvelles frappes ont visé ce mardi le secteur déjà en ruine, en riposte à des tirs de roquettes hier lancés vers l'État hébreu depuis le sud du territoire palestinien.
Des torrents de pluie, de violentes rafales de vent. L'ouragan Beryl poursuit sa trajectoire après avoir balayé plusieurs îles du sud-est des Caraïbes.
Oui, direction la Jamaïque et la République dominicaine en alerte rouge. L'ouragan a fait au moins un mort dans l'archipel anglophone de Saint-Vincent et les Grenadines. Beryl est désormais classé en catégorie 5. C'est la pire, hein. C'est le dernier niveau de l'échelle pour décrire l'intensité des tempêtes avec des vents supérieurs à 250 km/h. Beryl, c'est le premier ouragan de la saison en Atlantique. Yelena Tomic, très précoce et très puissant.
Oui, Charlotte, les images tournées à l'aide d'un drone au-dessus de Cariacou, une petite île de la Grenade, montrent un paysage de désolation, des toits et des fils électriques arrachés, des maisons éventrées, des arbres et des palmiers tenant à peine debout. La scène témoigne de l'intensité, vous l'avez dit, de l'ouragan Beryl qui, en une demi-heure, avec des vents allant jusqu'à 260 km/h, a frappé l'île qui se trouvait pile sur la trajectoire de l'œil de l'ouragan. D'autres îles et archipels, la petite Martinique, Saint-Vincent et les Grenadines, ont enregistré des vents catastrophiques et des pluies torrentielle. La Martinique placée en état d'alerte à la tempête tropicale, tout comme le sud d'Haïti et de la République dominicaine, ont connu des vents forts et de grosses averses passagères, mais sans conséquence. Tous les regards se tournent désormais, vous l'avez dit, vers la Jamaïque et l'île de Tobago où l'état d'urgence a été décrété. La population se barricade avant l'impact prévu demain, mercredi. L'ouragan Beryl inquiète les climatologues par sa taille, son intensité et sa précocité 2 semaines plus tôt que la normale, signe du réchauffement des océans dont la température atteint les niveaux habituellement enregistrés à la mi-septembre.
Yelena Tomic, allez, on en vient à la musique avec un premier album qui avait été un succès et King Anna vient d'en sortir un second qui promet. Ça s'appelle Big Swimmer. King Anna, c'est un duo anglais avec ce rock abrasif, cette voix envoûtante. Vous avez aimé José Marinho. When I was a
kid. Avec une folk matinée de post-punk et d'irrésistibles touches électroniques de trip-hop, King Anna s'est fait connaître à l'échelle internationale avec un remarquable premier essai. Dès sa sortie en 2022, la critique musicale place directement les Anglais dans la famille des légendaires Portishead et PJ Harvey grâce à ça. King Anna est un duo mixte formé à Liverpool en 2017. Pour ce nouvel album, il est parti sur les routes américaines explorer les paysages infinis du Nouveau-Mexique. Résultat, 11 grandes chansons mélancoliques et cinématographiques à souhait, portées par des guitares dissonantes sous une voix grave et planante. Voilà, c'est ça, Kingana, roi du riff et dame de cœur, capable d'entrelacer avec brio, douceur et vacarme. Rien d'extrême ou de trop engagé dans cet album, juste un journal de bord en forme de road movie musical pour nous inciter à aller au bout des rêves par les temps qui courent.
Nouvel album donc du duo anglais de King Anna, le choix musical de José Marinho.
A tout à l'heure, Charlotte Hydrac. Et on va parler de l'actualité sportive à présent. Bonjour Cédric de Oliveira.
Bonjour Anne.
Avec le foot et l'Euro qui se poursuit, hier l'équipe de France s'est qualifiée, mais sans briller pour les quarts de finale de la compétition.
Oui, ce n'était pas transcendant, mais les Bleus ont battu la Belgique 1-0 en fin de rencontre, longtemps inefficace. Les Bleus, comme depuis le début du tournoi, il a suffi d'un but contre son camp de Vertonghen, qui a contré une frappe de Randal Kolo Muani à la 85e minute. Pas brillant donc, mais les joueurs de Didier Deschamps sont toujours là et ils s'en félicitent. À l'image de Kolo Muani, dont l'entrée en jeu a donc été décisive, mais c'est vrai, ils auraient dû marquer plus tôt.
Non, j'avais l'idée de frapper et elle a été contrée. Au fond, on est très content du coup. Non, on est très très content. Il faut qu'on continue comme ça, même si on a su pas mal avoir d'occasions, même si elles n'étaient pas toutes cadrées. Mais on se crée pas mal d'occasions. Maintenant, il faut juste prendre le temps sur le dernier geste. Non, je réponds à blocage, mais je pense qu'on se précipite un peu trop vite sur le dernier geste où on essaie de jouer avec de la force. Mais il ne faut pas se précipiter, garder ce sang-froid et ce calme pour concrétiser. En deuxième période, on a essayé d'un peu de rectifier le tir, même si c'est pas rentré, mais on a essayé de plus se calmer sur le dernier geste. Bah, si on ne prend pas de but, c'est sûr qu'on peut aller le plus loin possible, c'est juste à nous, les attaquants, de marquer.
Randal Kolo Muani au micro d'Antoine Grenier.
Les Bleus joueront donc les quarts de finale où ils affronteront le Portugal.
Oui, grosse frayeur pour la Seleção qui elle aussi a longtemps buté sur la Slovénie et sur son gardien, l'impressionnant Jan Oblak, qui a même arrêté un pénalty de Cristiano Ronaldo en prolongation. La star portugaise qui n'a ensuite pas réussi à contenir ses larmes. Heureusement pour lui, ça s'est joué en prolongation après les prolongations. Et donc la séance de tir au but, c'est l'autre gardien, Diogo Costa, qui a fait la différence en sortant 3 tentatives des Slovènes. Qualification donc au tir au but pour les Portugais qui retrouveront la France vendredi à 19h temps universel après Espagne-Allemagne.
Il reste 2 huitièmes de finale à disputer, Autriche-Turquie et Roumanie-Pays-Bas.
Les Néerlandais qui ont fini à 3e de leur groupe vont affronter une équipe de Roumanie qui elle est sortie en tête du groupe E avec une victoire in extremis, un match nul et une défaite. Eh bien ces Pays-Bas n'ont pas été très rassurants en phase de poule et du coup leur sélectionneur Ronald Koeman assure ne pas aborder ce huitième de finale à la légère.
Nous prenons la Roumanie au sérieux, parce que c'est facile de s'imaginer que l'équipe nationale des Pays-Bas ne les prend pas vraiment au sérieux, mais ce n'est pas le cas, bien au contraire. Nous savons à quoi nous attendre et nous devons nous améliorer par rapport à notre dernier match. C'est ce que nous aimerions faire en tout cas.
Ronald Koeman, je parlais en même temps que lui, mais c'est Roumanie-Pays-Bas, coup d'envoi à 16h temps universel avant Autriche-Turquie à 19h TU.
Et puis en cyclisme, c'est déjà la 4e étape du Tour de France.
Oui, après 3 étapes en Italie, le peloton va entrer sur le sol français. 140 km entre Pinerolo et Valoire dans les Alpes françaises. Première étape de montagne avec notamment l'ascension d'un col mythique du Tour de France, le Galibier, classé hors catégorie pour rappel. Le maillot jaune de leader est sur les épaules de l'équatorien Richard Carapaz.
Il y a aussi du tennis à suivre, mais ça on en parlera ce soir dans le journal des sports dans RFI
Avec
Soir
plaisir.
À 18h15, temps universel. Merci Cédric de Oliveira.
RFI Midi, le monde à la mi-journée. Anne Cantner.
Midi et 19 minutes en temps universel. On va revenir sur cette décision très controversée de la Cour suprême aux États-Unis. Victoire pour Donald Trump, dangereux précédent pour Joe Biden. La Cour a étendu hier l'immunité présidentielle, immunité dont bénéficie Donald Trump, ancien président et candidat visé par 4 procédures pénales. On va essayer de mieux comprendre les conséquences de cette décision avec notre invité. Bonjour Anne Desine.
Bonjour.
Professeur des universités, vous êtes aussi l'auteur du livre « Les États-Unis et la démocratie » qui est paru aux éditions L'Harmattan il y a quelques années. On a pu voir tout de suite les effets de cette décision, l'utilisation qu'en fait Donald Trump, puisque ses avocats demandent au juge d'ajourner sa décision dans l'affaire Stormy Daniels, celui qui doit annoncer la peine infligée à Donald Trump. Il a déjà été jugé coupable par un jury populaire, maintenant on attend donc la sanction. C'est possible juridiquement d'ajourner, voire d'annuler la décision dans cette affaire ?
Il fallait bien s'attendre à ce que Trump clame victoire. Donc il a dit que c'était une très très bonne décision, comme s'il s'y connaissait, très très bien rédigée, et qui fait droit à toutes ses demandes. Et c'est vrai que la Cour suprême a bien pris son temps. C'est la dernière jour où elle rendait ses décisions, et elle rend sa décision. Ça n'a rien à voir avec le procès de New York. Le procès de New York, c'est avant que Trump ne soit président. Donc il ne jouissait pas de l'immunité. Mais il essaie, comme il essaie tout le temps, et cela marche souvent. Cela marche avec la petite juge de Floride, qui pour le moment a enterré le procès sur les documents confidentiels gardés dans sa salle de bain et son garage en Floride. Donc il essaie, mais surtout parce que ça lui permet d'instrumentaliser le récit médiatique. C'est-à-dire, il montre que les charges n'avaient rien à voir, que tout est instrumentalisé par les méchants démocrates.
Mais c'est important ce que vous nous dites, parce qu'en effet, parmi les procédures qui sont en cours contre Donald Trump, toutes ne concernent pas des actes commis pendant qu'il était président. Qu'est-ce que ça peut avoir comme effet au niveau de la justice ? Est-ce que certains de ces actes, disons non officiels, peuvent être couverts par cette nouvelle immunité étendue ?
En fait, les juges de la Cour suprême, du moins la majorité radicale de droite, a fait une typologie en trois catégories d'actes. Les actes qui sont totalement protégés, qui bénéficient de ce qu'on appelle une immunité absolue, parce que ce sont les actes du pouvoir exclusif du président en vertu de l'article 2 de la Constitution. Donc là, s'il envoie des troupes à l'étranger, immunité absolue, et c'est normal. Il faut que l'exécutif puisse fonctionner. Ensuite, troisième catégorie, tout ce qui relève du domaine privé ne jouit pas de l'immunité. Et là, c'est tout à fait normal. Simplement, la Cour a inventé une sorte de catégorie intermédiaire où certains actes qui sont peut-être officiels jouiraient d'une présomption d'immunité. Et donc, il va incomber à la juge de première instance, puisqu'en fait, la Cour suprême renvoie l'affaire devant la juge de première instance, celle qui avait conclu que Trump ne jouissait pas de l'immunité. Et cette juge va devoir étudier au cas par cas chacun des actes incriminés du président. Lorsqu'il a téléphoné au secrétaire en charge des élections en Géorgie en lui disant « il faut absolument que vous me trouviez 11 780 voix », est-ce que ça relève des actes officiels ou des actes non officiels du candidat qui cherchait à retourner l'élection ? Lorsqu'il s'exprimait près de la Maison-Blanche en disant « on va marcher sur le Capitole, il faut être courageux, il faut sauver notre démocratie », est-ce que c'était l'acte d'un président ou l'acte non officiel d'un candidat ? Et c'est donc tout ce travail sur les preuves que la juge de première instance va devoir faire, et le procureur est en train de réviser son acte d'accusation de façon à retirer ce qui, de toute façon, jouit de l'immunité absolue et se polariser, se pencher attentivement, se concentrer sur les points qui sont peut-être défendables, malgré les critères extrêmement élevés exigés par la Cour suprême.
Et donc tout ce travail que vous mentionnez, ça retarde évidemment la tenue du procès fédéral pour tenter d'inverser les résultats de la présidentielle de 2020. Il n'y a plus aucune chance là pour que ce procès se tienne avant la présidentielle du 5 novembre ?
Oui, là c'est certain, ce n'est pas possible. Donc à cet égard, les manœuvres dilatoires de Trump et ses petits amis à la Cour suprême ont gagné. Il n'y aura pas de procès sur cet élément essentiel. Mais la décision est grave aussi pour l'avenir, parce que ça veut dire que ça installe un sentiment d'impunité chez le président, chez les présidents futurs. Ils savent qu'ils peuvent faire pratiquement n'importe quoi. La juge Sotomayor, qui a écrit une opinion dissidente très très virulente, où elle critique frontalement ses collègues, dit, mais alors, si le président ordonne aux forces spéciales de tuer un adversaire politique, c'est un acte officiel ou non officiel ? Et elle conclut, d'après le raisonnement, d'après le mécanisme mis en place par la Cour suprême, c'est un acte qui jouit de l'immunité. Si le président touche des pots de vin pour gracier un certain nombre de personnes, est-ce que ça relève de l'immunité ? Oui, oui, oui. Et donc elle dit, les juges ont réécrit la Constitution, d'autres ont dit, c'est comme si un amendement avait été ajouté, pour dire que le président jouit d'une immunité absolue, alors que les pères fondateurs voulaient absolument éviter que le président soit au-dessus des lois, parce qu'ils voulaient éviter que le président soit comme le roi en Grande-Bretagne, qui, lui, ne pouvait pas être jugé.
Et d'ailleurs, ce terme de roi, c'est un terme qui revient aujourd'hui dans la presse. Est-ce qu'il faut déduire de tout ce que vous nous dites que désormais Donald Trump est complètement intouchable ?
Ben, en fait, le problème, c'est que s'il est réélu, il y a beaucoup de commentateurs qui disent qu'il ne quittera pas le pouvoir et qu'aucune poursuite ne sera possible contre lui. Mais en fait, le mécanisme, c'est théoriquement l'impeachment. L'impeachment qui est un remède politique. Mais à cause de la lâcheté des sénateurs républicains, il n'a pas été destitué. Et d'ailleurs, ces sénateurs républicains, dont le leader républicain McConnell, disaient « mais ce n'est pas grave qu'on ne destitue pas parce qu'il y a un système pénal ». Le président n'est pas au-dessus des lois, donc il pourra faire l'objet de poursuites. Sauf que maintenant, la Cour suprême dit autrement.
Avec des conséquences dont vous nous parlez qui pourraient avoir aussi des effets sur plusieurs années et pour de futurs présidents, est-ce que selon vous, aujourd'hui, la justice des États-Unis peut encore travailler de manière indépendante, notamment au sujet de Donald Trump, sans prendre le risque d'alimenter encore un peu plus la théorie du complot ?
En tout cas, quand on regarde les sondages, on constate qu'une majorité du peuple américain maintenant n'a plus confiance dans la Cour suprême. Alors, c'est surtout vrai chez les démocrates, mais c'est vrai chez les indépendants, c'est vrai chez les républicains modérés. Et en fait, c'est alimenté par une liste de décisions qui sont rendues à 6 voix contre 3, c'est-à-dire les 6 républicains nommés par des présidents républicains, dont 2, George W. Bush et Trump, qui n'avaient pas obtenu la majorité des suffrages, mais seulement la majorité du collège électoral, donc 6 républicains contre les 3 progressistes. Et ce sont ces décisions, à 6 contre 3, qui démantèlent l'acquis social, économique, etc., et là, qui confèrent une immunité absolue ou quasi absolue au président.
Et qui peuvent avoir des conséquences aussi sur des juridictions inférieures, disons à des niveaux inférieurs ?
Bien sûr, parce qu'aux États-Unis, c'est la règle du précédent, c'est-à-dire que les juridictions inférieures doivent se conformer à la jurisprudence, donc aux décisions de la Cour suprême. C'est-à-dire que maintenant, les décisions inférieures et la juge de première instance dont nous parlions tout à l'heure, elle va devoir essayer de lire entre les lignes de cette décision pour rendre un premier jugement qui, de toute façon, sera contesté par Trump et ses avocats, mais qui ait des petites chances d'être confirmé en appel et peut-être par la Cour suprême, mais on ne sait pas.
Merci beaucoup Anne Desine d'avoir été en ligne avec nous. Je rappelle que vous êtes professeure des universités, spécialiste des questions politiques et juridiques aux États-Unis et que vous avez écrit l'ouvrage « Les États-Unis et la démocratie » qui est paru en 2019 aux éditions L'Harmattan.
RFI Midi.
Notre reportage du jour à présent à la frontière entre Israël et le Liban où la tension monte chaque jour. Les tirs sont quotidiens visant d'un côté l'armée israélienne, de l'autre le Hezbollah. Pourtant, plus de 10 000 casques bleus sont présents dans la zone frontalière tracée par les Nations Unies. 10 000 hommes dont le mandat ne permet pas d'intervention. Les soldats de la mission de l'ONU ne peuvent qu'observer et s'éloigner quand la pression monte trop. Reportage avec le contingent espagnol de notre correspondante Sophie Guignon.
La zone de surveillance de la force intérimaire des Nations Unies au Liban commence au sud du fleuve Litani. Nous embarquons à bord d'une patrouille dirigée par le lieutenant-colonel espagnol José Irisari.
On va à Kfar Kila.
Direction la ligne bleue, la frontière entre le Liban et Israël, au cœur des affrontements entre les combattants du Hezbollah et l'État hébreu.
Les patrouilles sont la seule manière d'empêcher une armée irrégulière de s'établir ouvertement dans la région, ce qui augmenterait le risque d'une guerre ouverte.
Par la fenêtre, nous apercevons une colonne de fumée provenant d'un bombardement israélien.
Ça, c'est la partie sud de Riyam. Le risque principal, c'est qu'une bombe tombe à proximité de la patrouille s'il y a une attaque.
Les casques bleus nous emmènent plus loin, le long de la frontière, à Kfar Kila. Les immeubles en ruine défilent.
C'est le village qui a été le plus attaqué par les Israéliens. Il n'y a plus personne ici.
Soudain, le premier véhicule blindé de la patrouille fait demi-tour. Un ordre vient d'arriver, il faut se réfugier immédiatement dans la base la plus proche.
Bien reçu. Niveau d'alerte 2.
Que se passe-t-il ?
En général, c'est à la demande de l'armée israélienne.
Quelques minutes après notre départ, Kfar Kila sera de nouveau bombardé par Tsar. De retour en lieu sûr, le chef de la base, le capitaine Alfonso Albar, nous guide vers un point de surveillance. Les casques bleus sont les observateurs impuissants de cette guerre qui ne dit pas son nom.
Il y a de tout, des attaques aériennes, des attaques d'artillerie, des mortiers, le feu, des mitrailleuses, il y a de tout.
Qu'est-ce qu'on peut faire? Nous devons essayer d'éviter la guerre, mais on ne peut pas imposer la paix.
Malgré la présence de 10 000 casques bleus, cette zone frontalière est aujourd'hui une poudrière qui pourrait enflammer le Moyen-Orient. Sophie Guignon, de retour de Kfarkila, RFI.
Reportage à réécouter quand vous le voulez sur l'appli RFI Pure Radio, comme toutes nos informations.